Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous. On a eu notre petit brief, hein, je vous raconte toutes les coulisses pour vous expliquer toujours cette usine à gaz des temps de parole, des temps d'antenne où on a du retard, pas du retard, on peut dire du mal, pas du bien. Enfin, c'est absolument ubuesque, je n'ai pas d'autres mots. Voilà, aujourd'hui pour débattre, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia.
Bonjour. Bonjour.
Pascal Jalabert, bonjour. Journaliste politique et éditorialiste, bonjour. Et Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Fil de Média.
Bonjour.
Plusieurs sujets, évidemment, J-4 avant le premier tour. Le point de cette campagne sur les sondages. Est-ce que vous croyez aux sondages? Est-ce que vous pensez que les sondeurs vont lundi matin être dans les choux? On peut nous aussi, comme eux, faire de la prospective. On peut parler également des sanctions contre la Russie. Jusqu'où vont aller ces sanctions? Sont-elles efficaces? Et puis, revenir sur la mort de Jérémy Cohen, Emmanuel Macron, qui a mis en garde contre une récupération politique. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, Pascal Jalabert?
Oui, alors un coup de cœur ce matin pour ce gagnant de l'euro-million, il a quand même gagné 200 millions, ce qui est une somme énorme. Hein. C'est le budget d'une commune de 10 000 habitants pour faire une comparaison, de 12 000 habitants pour faire une comparaison. Et il a décidé d'en reverser la quasi-intégralité à une association qui œuvre pour la protection de l'environnement, notamment en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, un geste rare, un geste étonnant. Ouais. Et ça laisse quand même quelques espoirs. Tout le monde n'est pas auto-centré, n'est pas replié sur lui-même. Ouais. Certains pensent aux grandes causes. Et puis, ça rappelle quand même que l'urgence climatique est là et qu'elle s'impose à tous.
Très, très bon coup de cœur. Et effectivement, on parlait de fraternité tout à l'heure avec Mathieu Scheng. Bah, écoutez, comme quoi la bienveillance et la générosité existent encore. Matteo, vous, c'est un coup de gueule?
Oui, c'est un coup de gueule parce que il y a eu une arrestation, en fait, une mise en garde à vue d'un gendarme que est rentré chez lui à Montrouge. Il est tombé sur un groupe de jeunes individus qui consommaient de la drogue en bas de son immeuble. Et donc, il leur a dit d'arrêter. Et naturellement, vous pouvez imaginer que les jeunes n'ont pas apprécié cette remarque. Donc, la situation a dégénéré et, comme nous l'a expliqué CNews, il y a eu une rixe et un jeune a été blessé de 17 ans. Et donc, ses compagnons ont accusé le gendarme d'avoir été à l'origine de cette blessure, peut-être, sans doute. Mais ce qui m'a fait, en tout cas, réfléchir à 4 jours des élections, c'est qu'encore une fois, on a un gendarme qui rentre chez soi et qui dit tout simplement à des jeunes d'arrêter de fumer des pétards en bas chez lui, parce que en plus que toutes les considérations qu'on peut faire sur les pétards, il faut dire aussi que c'est nuisible, c'est gênant aussi, l'odeur des pétards qu'on a de plus en plus dans certains endroits de nos villes, etc. Et c'est le gendarme qui finit en garde à vue alors que les autres,
Ça rappelle aussi ce qui s'est passé la semaine dernière avec un cambrioleur abattu alors qu'il défendait sa famille. Emmanuel Macron a dit qu'il était contre la légitime défense. C'est pourtant quelque chose qui existe dans le droit. Dans le droit, c'est pas exactement la même chose. Je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire qu'on peut plus se défendre en gros.
Non, et surtout, on peut plus exiger de vivre en paix, parce que désolé, mais quand on a 10 personnes, ou je ne sais pas, en tout cas, une seule personne qui fume des pétards en bas de chez soi et sous ses fenêtres, ça gêne un peu. Enfin, désolé, mais parfois, moi, j'ai 2 enfants, ça m'arrive d'être en ville, de sentir l'odeur des pétards et de devoir expliquer à mes enfants que c'est pas bien et que c'est quelque chose de gênant. Et mes enfants, auxquels j'essaie en tout cas de donner des explications, ils disent mais pourquoi ces personnes-là continuent à gêner. Voilà.
Très bien, on a entendu votre coup de gueule. Alexis Poulain.
Alors moi, c'est un coup de gueule de campagne. C'est quand même assez incroyable. Vous savez, l'an dernier, on parlait des Open Lux. Hein, c'était un scandale financier du Luxembourg. Mmh. 55 000 sociétés offshore, dont 17 000 sociétés françaises au Luxembourg qui détenaient 6 500 milliards d'actifs. Petit paradis fiscal au cœur de l'Europe. Eh bien, on apprend que le Premier ministre de ce merveilleux paradis fiscal, le Luxembourg, va être présent pour soutenir le candidat Emmanuel Macron à Strasbourg demain. Donc voilà, alors on a l'affaire des cabinets de conseil, on a bien sûr l'affaire aussi de où est passé l'argent de la banque d'affaires d'Emmanuel Macron, hein, cet argent qui s'est évaporé. Alors on parlait des possibilités d'avoir des trusts offshore dans les îles anglo-normandes. On a l'impression quand même que durant ce quinquennat, Emmanuel Macron a été le président de l'optimisation fiscale. Voilà, et, oui. Et ça permet de clore de manière brillante avec le Premier ministre d'un des paradis fiscaux les plus connus intra-européens de venir en disant « c'est formidable, j'adore ce candidat, c'est vrai qu'il nous a aidé à continuer à être...
» Mais là, il va faire quoi au Luxembourg ?
Ah non, il est à Strasbourg, et c'est le Premier ministre du Luxembourg qui va venir, parce que vous savez qu'Emmanuel Macron défend l'Union européenne, c'est le candidat avec le drapeau européen, plus que le drapeau français dans ses meetings. Et donc là, l'idée, c'est de dire « bah voilà, c'est notre champion européen, mais c'est aussi le champion de l'optimisation fiscale, il faut dire ce qui est.
Oui, vous en pensez quoi, Mathéo?
Si je peux ajouter juste une petite chose, c'est que d'ailleurs, ce matin, dans Marianne, il y a une tribune signée par des magistrats qui jugent anormal la non-ouverture d'enquête sur McKinsey. Donc voilà, j'ajoute cet élément et effectivement, je me dis toujours... ceux qui pensent encore au monde de bisounours et de la loyauté de l'actuel chef du gouvernement vis-à-vis de certaines pratiques, enfin, je suis un peu étonné vraiment. Enfin,
oui. La question qu'on peut se poser derrière toutes ces suspicions, en tout cas, c'est que il y a quelque chose quand même qui se dessine. On a vu certaines affaires très gênantes menées au détriment des intérêts nationaux. Je reprends toujours l'affaire Alstom, et quand même qui est un vrai scandale et qui était là placé sous l'égide de l'autorité d'Emmanuel Macron lorsqu'il était à Bercy. Et là aussi, ça mériterait qu'on creuse. Il y a la volonté de servir des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres. Et en général, c'est plutôt les gros, les puissants et en effet les grandes puissances de l'argent.
Alexandre,
c'est très gênant.
Désolé, mais si on a un président de la République qui exige de ne pas participer, de se mêler même pas au débat électoraux alors qu'il est candidat, enfin, moi, je trouve scandaleux et je ne comprends pas pourquoi... Enfin, oui, je comprends, mais je ne comprends pas. Je fais mine d'être un peu, ingénu. Je ne comprends pas pourquoi la presse nationale et les services publics, d'ailleurs, n'insistent pas. Parce que,
ils ont insisté. Hein, la SDJ s'est saisie.
Oui, mais
vous avez entendu Philippe Poutou hier qui a réclamé effectivement qu'Emmanuel Macron soit là.
Tous les candidats ont attaqué là-dessus.
Oui, mais ce que je me dis, c'est si... une chose de pareille était arrivée ailleurs, dans un autre pays. Je pense aussi à l'époque de Berlusconi en Italie. Ouais. Et vous imaginez les correspondants étrangers crier au fascisme, etc., parce que le président de la République ou le premier ministre, pour nous, ne souhaitait pas intervenir à un débat. Non, mais enfin, de quoi
on parle ? Allez, on va en reparler dans un instant. C'est l'heure du journal et on peut embrayer effectivement sur ce sujet. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, fil de médias, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, et Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. On va revenir sur les sondages à 4 jours de l'élection présidentielle. On va parler on va voir ce qu'on aura le temps de faire, puisqu'il y a des sujets qui partent parfois différemment. Jusqu'où vont aller les sanctions contre la Russie. On était parti sur en débat après le coup de gueule d'Alexis Poulain, donc à propos du Premier ministre luxembourgeois qui va soutenir Emmanuel Macron à Strasbourg, et puis sur cette campagne pour le moins curieuse d'Emmanuel Macron. C'est là-dessus, parce que vous avez dit, pourquoi est-ce que France 2 a accepté cet état de fait ? Ils n'ont pas accepté. La société des rédacteurs s'est mobilisée, la société des journalistes, mais l'explication en plateau n'a pas été top. Hein.
Oui, alors déjà, bon, il n'y a pas eu de débat organisé. Alors c'est vrai qu'à part en 2017, il n'en avait jamais eu avant le premier tour. Mais malgré tout, on ne peut pas comparer un meeting avec des interviews faites par des journalistes. C'est pas possible. Donc là, il y a eu une inéquité flagrante entre Emmanuel Macron, dont on a sélectionné des extraits de meeting avec des ovations, avec autour de lui des gens béats d'admiration, et des candidats, malgré tout, confrontés aux questions parfois difficiles de journalistes. Ouais. Et enfin, des questions normales, d'ailleurs.
Mais qu'ils étaient pris au piège, voilà, qu'ils étaient obligés d'avoir du temps de parole.
Ils avaient du temps de parole.
Et qu'ils se retrouvaient...
Ils se retrouvaient pris au piège. Donc, moi, à mon avis, ce qui aurait été juste, ça aurait été d'inviter, monsieur Macron ne voulait pas venir, que quelqu'un vienne à votre place, de vos représentants, et qu'il soit soumis au feu roulant des questions. Ça aurait été beaucoup plus juste. Ouais. Alors, si Emmanuel Macron refuse, eh bien, tant pis. C'est la chaise vide. Mais là, il a eu une inéquité flagrante. Et c'est dommage, parce que c'est quand même une émission qui était plutôt de qualité. Et là, eh bien, sur la dernière, elle sombre un peu. Moi, je rends quand même hommage à ceux qui l'ont faite, parce que les interviews, je pense à Nathalie Saint-Cricq et à d'autres, étaient très pertinentes. Mais là, sur le final, ça ne va pas.
Oui, alors il y a une candidate, dont je ne peux pas dire le nom, qui a dit « Cher France 2, lors du second tour, si les Français me font cette confiance, je vous annonce que je souhaite remplacer les interviews sur votre chaîne par la diffusion des meilleurs extraits de mes meetings. » C'est vrai qu'il y avait le choix qui a été fait dans la diffusion des extraits. Et plusieurs candidats se sont insurgés. On a vu Philippe Poutou, on l'a évoqué tout à l'heure, qui a interpellé le service public en disant « Mais où est passé Emmanuel Macron ?» Vous en pensez quoi, vous, Alexandre Malafaye ?
J'en pense que le service public français a un vrai problème de ligne, si je puis dire, éditoriale. Elle est très teintée de bonnes pensées, de moralisation et de souvent même de diabolisation des uns contre les autres. Ça me gêne toujours quand je vois comment les interviews sont menées, y compris dans ces grandes séquences politiques préélectorales. Il y a véritablement, à un moment donné, une volonté de décrédibiliser certains candidats contre d'autres. Alors je crois avoir compris qu'une certaine Anne-Sophie Lapix allait payer le prix de ces séquences où on la voyait derrière, hilar, avec Monsieur Cohen, pendant que certains candidats ou certaines candidates répondaient aux questions et étaient ennuyés par les questions, parce que c'était toujours de la même façon qu'on les attaquait, et on les voyait derrière en train de se fendre la poire en disant mais vraiment que c'est des imbéciles, et comme si eux, ces journalistes, étaient supérieurs à tous les autres. Donc je veux dire, si ces gens à un moment donné perdent de leur crédibilité, c'est une chose, mais ce qui est dramatique, c'est que ça fait perdre de la crédibilité au service public. Et donc derrière, ça renforce tous ceux qui aujourd'hui ont envie de voter de manière alternative, parce qu'ils disent mais regardez cette corruption des esprits, corruption des âmes. Mais je vais très loin.
Vous pouvez pas aller.
Je suis très sévère. Je suis très sévère.
Citer Nathalie Saint-Cricq. Mais
peut-être que ces derniers temps, ils l'ont mieux fait qu'avant. Très sincèrement, j'ai vu des interviews menées par les uns ou par les autres sur le service public, y compris Nathalie Saint-Cricq, y compris Léa Salamé, qui était très critiquable.
Vous pouvez faire le tour des chaînes d'infos. On va pas jeter l'opprobre sur
Ça. J'attends du service public une véritable neutralité. Voilà. Et à un moment donné, je crois que c'est ce que les gens attendent. Il ne faut pas s'étonner qu'après, ils préfèrent aller regarder des émissions chez Hanouna. Voilà.
Mathéo ?
Oui, moi aussi, honnêtement, je constatais que il y avait de toute façon une forme de condescendance vis-à-vis de certains candidats. Mais c'est les problèmes c'était celui du temps d'antenne et de cette usine à gaz dont vous parliez au début de cette émission. C'est simple. Le président ne souhaite pas participer. On décompte le temps qu'il aurait pu utiliser. Et très bien. Mais en tout cas, il faut redire à tout pratiquement le début des intervention des autres candidats, le président de la République, candidat à sa réélection, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Oui. Déjà ça, c'est quelque chose de très simple,
mais ça a été fait.
Je ne veux pas être, à tout prix m'opposer à ça, mais à votre opinion, mais ce que je pense, c'est qu'il a été fait de façon très tardive, parce que n'oubliez pas que toute cette histoire des temps de parole à l'antenne a commencé en septembre, quand on a commencé à décompter celui d'Éric Zemmour, qui n'était pas candidat. que je sache, Emmanuel Macron a été candidat il y a quoi, 3 semaines.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Non, mais moi, je voudrais dire, c'est assez juste, et c'était le thème de mon édito tout à l'heure, c'est que Emmanuel Macron fait tout pour éviter de faire campagne. Il fait tout pour éviter de débattre. Il fait tout pour éviter d'avoir à répondre à des questions de journalistes ou même d'opposants. Il se met en scène à l'aréna devant tous ses fans. Il va dans des déplacements auprès de gens qui se rallient à lui ou qui sont des soutiens de longue date. Mais quand il est question de répondre aux journalistes et d'avoir simplement... un bilan à défendre, c'est ce qu'il ne fait pas.
Vous pensez qu'il a peur ?
Mais il a peur des questions qu'on va lui poser sur les cabinets de conseil, sa gestion de la crise sanitaire, qui n'est pas finie, loin de là. Là, on fait comme si tout était fini, cocorico, mais que dalle. Sur sa gestion calamiteuse des pourparlers de paix, qui finit finalement avec des sanctions qui vont nous retomber dessus très rapidement. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va éviter de faire campagne. Et il sabote cette campagne. Quand il refuse de répondre aux questions, je suis assez d'accord, eh bien, c'est son choix. Eh bien, tant pis.
Mais il est allé chez Francis Letellier, il est allé chez sur France Inter, il est allé sur M6.
Les gars ont dû faire des contorsions pour organiser le temps de parole, le temps d'antenne des autres.
Un moment, ça suffit.
En faveur du président de la République.
S'il a honte de son bilan, qu'il le dise.
Non,
Il a même une idée.
Moi, c'était Patrick Cohen, je le connais bien. Je sais que s'il avait Patrick Cohen en face, il aurait posé la question McKinsey inévitablement.
Vous parlez de Patrick Cohen, pas d'Emmanuel Macron.
Non, Patrick Cohen aurait posé à Emmanuel Macron la question McKinsey et d'autres confrères aussi. Donc, je pense que sur une émission de grande écoute, sur la chaîne numéro 2 à 20h45, il n'avait pas envie de répondre à la question McKinsey. Il n'avait pas envie de questions détaillées sur son projet de retraite, parce que quand même...
65 ans.
Voilà, bien la retraite. À 65 ans, à mon avis, plus que McKinsey, c'est ça aujourd'hui qui lui a fait perdre pas mal quelques électeurs de gauche. Donc voilà, il est dans une situation où, en effet, moins il fait campagne, plus ça l'arrange.
Et qu'il a pensé enjamber le premier tour. C'est qu'il a fait une campagne de deuxième tour.
Et voilà, et le système français permet de le faire. Parce que, d'abord, on n'est pas dans une situation de bipartisme comme aux États-Unis. Et puis, on n'est pas dans une démocratie parlementaire comme chez nos voisins allemands, italien, espagnol. Donc du coup, il peut profiter de l'institution pour garder sa...
Le système permet de le faire, parce qu'en France, on a coutume de dire que les institutions sont solides, elles sont surtout rigides, donc un jour elles craqueront. Et ce problème de rigidité, c'est qu'en fait, c'est tout le pouvoir entre les mains du président qui choisit à quel moment il décide de jouer la partie. Ça, il y a une règle...
Et qui peut être élu avec 24%.
Exactement, voire même 17% si on compte effectivement les blancs et les abstentionnistes. Voilà. Donc on est d'accord, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'était le sujet de la présidentielle, ce sera le sujet de la prochaine. Mais en tout cas, cette problématique du président qui décide à quel moment il rentre dans la partie en décidant seul des règles du jeu, elle méritera d'être réformée. La seule petite chose un peu amusante qu'on peut remarquer, c'est que comme il a décidé de faire son meeting tard, son meeting n'a pas été retransmis sur les grandes chaînes pour des questions d'égalité de temps de parole. Donc ça, c'est un petit revers de boomerang assez croustillant. Voilà. Ouais. Cela dit, moi je pense qu'il n'est pas impossible, et ce qui explique aussi le score de certains candidats aujourd'hui qui montent en flèche, que cette absence de volonté de faire campagne va peut-être se retourner contre lui, en tout cas dans les résultats du premier tour. Moi, ce que je perçois, c'est que la posture de chef de guerre commence à être peu crédible. Parce que la guerre, elle est en Ukraine. Voilà. Mais donc, ce costume-là, ce costume de chef de l'Europe, il y a aussi des gens qui disent, bon, très bien, mais qui voient bien qu'il y a une manip derrière tout ça. Et puis, so what ? Voilà. À quoi ça sert d'être chef de l'Europe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Sur les questions ukrainiennes, ça donne pas vraiment de résultats. Sur le grand projet européen qu'il voulait porter, c'est totalement sans bruit. Donc, on est dans une posture de comédie, si je puis dire, qui n'est pas en train de lui porter chance, et il est possible qu'effectivement dans le résultat du premier tour, même si ça le qualifiera quoi qu'il arrive pour le second tour, mais cette posture-là, elle peut être effectivement une vraie fragilité.
Moi je pense qu'il y a aussi... Il y a autre chose aussi au-delà de la campagne présidentielle. C'est pas normal, par exemple, que il faut attendre tous les 5 ans pour que Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud aient accès aux matinales des grandes radios et des médias mainstream. Non, mais réellement, la parole de tout un pan politique, le camp anticapitaliste, n'existe pas le reste de l'année, le reste du temps. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a aussi une façon des médias de représenter aussi ces camps-là hors des campagnes
Et Jean Lassalle.
Présidentielles. Et Jean Lassalle Salle, qui a quand même plus accès, même si c'est beaucoup moins, ouais. mais qui arrive à faire des coups de com'.
Absolument.
Pour les autres,
c'est Jean Lassalle qui est intervenu.
Le reste du temps, ils sont pas. Et Jean Lassalle, d'ailleurs, face à Apolline de Malherbe, qui dit, mais voilà, vous savez très bien qu'avec votre patron qui roule pour Macron, ça sert à rien que je dise quoi que ce soit, puisque de toute façon, elle a eu beau se défendre. Jean Lassalle a parlé pour beaucoup de Français en disant ça ce matin-là sur cette radio.
À l'instant, sur Twitter, je vois Linda Kebab, vous savez qui est une policière qui raconte, ça rejoint votre coup de gueule de tout à l'heure, mais moi j'en ai ras-le-bol. À Rouen, des policiers interpellent l'auteur d'une agression sordide à la batte de baseball. Il a toujours le sang de sa victime sur ses chaussures. Ses copains attaquent les policiers pour le libérer en criant à la bavure. Voilà, c'est donc ça, El Famoso, victime incomprise. C'est insupportable, cette vidéo est absolument sidérante. Ces voyous qui n'ont pas peur de la police, qui, au-delà même de ne pas avoir peur, poursuivre les policiers et les attaques, c'est proprement sidérant. Ça rejoint votre coup de gueule de tout à l'heure, Mathéo.
De toute façon, il y a une impunité dans ce pays qui porte
la justice. Alors, moi, je vais faire mon coup de gueule. Vous parlez d'impunité, là, c'est la justice. C'est Georges Tron qui a été remis en liberté avec bracelet électronique. Figurez-vous que l'ancien secrétaire d'État, donc, qui a été condamné à 3 ans de prison ferme, il a été remis en liberté à la fin du mois de mars, placé sous bracelet électronique le 17 février 2021. La cour d'assises d'appel de Paris l'avait condamné donc à ses 3 ans pour viol, agression sexuelle en réunion. Et ben voilà, 1 an de prison et il est en liberté. Bon, vous trouvez ça normal ?
C'est la règle de l'application des peines. Il a demandé, il a demandé une libération conditionnelle à mi-peine qu'il a dû obtenir.
Pas tout à fait à mi-peine.
Mais voilà, on n'est pas tout à fait à mi-peine, donc c'est un peu gênant. Il a probablement été un détenu exemplaire, donc son décision de justice, c'est très difficile.
À la place des victimes
et de l'exemplarité, c'est pas terrible.
Il y a d'autres paramètres qui sont parfois pris en compte aussi. C'est la problématique carcérale, la sécurité des personnes qui sont en prison, la problématique également du nombre de places. Et donc, quand vous mettez quelqu'un chez lui, ça libère des places pour d'autres personnes qui sont en attente d'exécution de peine. Voilà, c'est pas aussi facile que mais sur le principe, bien sûr, c'est choquant.
Quand on lit la décision, c'est quand même.
Encore dans le cas de Georges Tron, je pense pas qu'il va tuer quelqu'un à la sortie.
Sur lui, les bracelets électroniques.
Mais le pire, c'est quand vous avez ce type de remise de peine et que le condamné replonge immédiatement et provoque un drame de plus. Ouais. Et là, c'est incompréhensible pour nous, quoi.
Ah, allez, on marque une pause et on se retrouve dans un petit instant avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, un autre tweet à l'instant, police nationale. Ce matin, alors qu'il menait une médiation dans le cadre d'un conflit de voisinage, un policier réserviste de Vernon a été victime d'un jet d'acide au visage par un septuagénaire. Donc le mis en cause a été interpellé. Mais cette violence qui est là, cette insécurité, ce défi à la police est absolument insupportable, vraiment insupportable. Alexandre, on va faire une petite parenthèse avec vous. Votre coup de gueule concernait l'Ukraine.
Alors, ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est un partage d'inquiétude avec vous. Je suis assez préoccupé par l'absence de réflexion stratégique de l'Union européenne dans le cadre de ses relations avec la Russie. Ça me préoccupe beaucoup. Aujourd'hui, la seule réponse qu'on a opposée à la Russie et à son peuple et à Vladimir Poutine, ce sont des sanctions, toujours plus de sanctions. On est dans une spirale. Alors, après les sanctions, il y a quoi ? Je ne sais pas, mais c'est très préoccupant. Je suis d'autant plus préoccupé que quand je vois le président Zelensky, qui est admirable, bien des égards, mais qui nous exhorte quand même à rentrer en guerre. Parce que si on écoute Zelensky, on serait déjà en guerre, on aurait déjà envoyé nos hommes, nos chars, nos avions en Ukraine contre les Russes, qui effectivement fait tout ce qu'il peut pour exister, il a raison, mais il n'empêche que les conséquences, comme le disait Alexis tout à l'heure, c'est nous qui les assumons, ce sont nos entreprises qui se retirent, ce sont nos citoyens qui payent le prix dans leur panier d'achat du ménager de tous les jours de ce qu'ils achètent. Voilà. Et je ne suis pas sûr que nos intérêts stratégiques aujourd'hui soient bien défendus. Aujourd'hui, nous n'avons plus la place de négociateur dans cette discussion, ce sont les Turcs qui l'ont et d'autres pays qui renforcent leurs relations. Alors avec la Russie, je ne sais pas si c'est pour les renforcer, mais en tout cas qui sont dans la partie. Je crois qu'on est dans une position qui est très inconfortable et qui est le reflet de notre relation avec la Russie, comme avec l'Iran depuis des décennies, sous l'influence américaine. Pour les Américains, c'est très bon, il n'y a pas de problème. Eux, ils vont tirer la couverture à eux. Nous, on est dans une situation infernale et moi, les questions question que je me pose sur un plan stratégique, c'est quoi les conditions d'un retour progressif à la normale? Quoi les conditions de la levée des sanctions? C'est quoi les conditions de la désescalade? Si c'est le départ de Poutine, d'accord, attendons. Mais attention, il y a qui après Poutine? Vous savez, on s'est jamais posé la question quand on a fait la guerre en Irak ou en Libye. On dit, ok, on fait la guerre. Mais une fois qu'on a fait la guerre, il se passe quoi? Il y a qui? Et pour quel projet? En Libye, ce n'est pas beaucoup mieux. En Irak, je ne suis pas sûr que ce soit non plus beaucoup mieux. Donc, on est sur des problématiques de fond. Et là, on est dans une espèce de surenchère et où le sens et la finalité n'est pas évidente, sauf que ça va nous coûter très cher.
Le sens et la finalité est assez évident. Voilà, c'est la vassalisation des pays européens au profit des intérêts américains.
Voilà. Donc, très grosse inquiétude ce matin par rapport à cette situation. Et en plus, on est en train de taper tous les Russes, alors qu'on cible de manière précise un certain nombre de gens, d'organisations, etc. Très bien. Mais les sportifs, pourquoi les sportifs? Pourquoi la culture? Pourquoi la culture, les artistes, tout ça aujourd'hui, on déprogramme les opéras, on déprogramme les chefs d'orchestre. C'est impensable dans la durée, ça, pardon, mais comment on revient en arrière?
Ça va être très, très compliqué.
Avec quand même un peu d'hypocrisie, puisque l'Allemagne nous dit qu'ils n'arrêteront pas les importations de gaz russe.
Ils ne peuvent pas.
C'est quand même, entre guillemets, au sens propre, le nerf de la guerre.
Bien sûr.
Puisque c'est ça qui finance aujourd'hui la guerre de Poutine, et même son pouvoir, et même les commissions qui donnent aux oligarques.
Mais on ne peut pas couper l'importation de gaz aujourd'hui.
Alors, où on décide de le faire, les Allemands, ils paient plus cher le gaz ailleurs, ou ils achètent notre nucléaire, tant pis.
Pascal.
Mais on ne peut pas dire d'un côté, je sanctionne à fond, je pénalise une entreprise, etc. Mais je continue quand même à importer le gaz russe. C'est quand même tous les jours 700 millions d'euros.
Pascal,
ce n'est pas
l'Union
rien.
Européenne importe chaque année 145 milliards de mètres cubes de gaz. Aujourd'hui, on sait à peu près trouver 20 milliards. Voilà, le reste, on va continuer à l'acheter à nos fournisseurs habituels, c'est-à-dire la Russie. 145 milliards, on ne peut pas s'en passer, c'est vital, c'est 20% de la consommation énergétique européenne.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Ces sanctions, Matteo Ghisalberti, on dit des sanctions de plus en plus strictes, sauf qu'on n'en a pas les moyens aujourd'hui.
C'est ça. Alors, je fais une petite prémisse. Personne justifie les massacres qu'on a vus à Télé, qu'on a vus à Boutcha et dans d'autres villes. Malheureusement, on en découvrira encore. Mais effectivement, moi, j'entends pas du tout une intention de limiter le conflit et de l'arrêter, de sauver des vies humaines. Enfin, moi, quand j'entends aussi effectivement Zelensky qui nous invite à entrer en guerre, je suis un peu préoccupé parce que je pense d'abord à ses concitoyens et puis aussi à nous et de ce côté de l'Europe. Et désolé, comme je l'ai dit encore la semaine passée ici sur ce plateau. Enfin. Poutine a la main sur le robinet du gaz.
Oui.
Si ils veulent l'arrêter, il va l'arrêter. Cela veut dire que nos industries ne fonctionneront plus au même régime, donc il y aura des emplois qui sauteront. Il y aura des problèmes aussi d'approvisionnement d'autres biens de première nécessité. Donc, ça va dégénérer. Et moi, je pense que la gestion de cette crise de la part, surtout d'Emmanuel Macron, parce que, hasard du calendrier, il est aussi le président de l'Europe, entre guillemets, ce n'est pas du tout concluante. Et d'ailleurs, le monsieur qui ne veut pas participer à des débats, etc., peut-être il devrait aussi rendre compte devant la presse internationale, avec aussi les autres candidats, dans un débat européen, vu qu'il ne veut pas répondre à des médias français, aussi sur ce dossier. Parce que les autres candidats pourraient être tout à fait légitimes vu qu'ils aspirent à devenir les présidents français et de l'Europe pendant 3 mois encore jusqu'à la fin de ce mandat européen.
Ouais.
Moi, je veux bien redire en complément juste, mais moi, je fais très attention à ce que je dis, mais je suis aussi très prudent quand j'observe la réalité de ce qu'on nous envoie comme image sur les situations de crimes de guerre et autres. D'abord, je pense qu'il faudrait faire attention dans le vocabulaire qu'on utilise. La grammaire stratégique nous recommanderait quand même de parler de crimes de guerre, mais pas de désigner déjà des criminels de guerre. Ça permettrait de ne pas rompre les ponts diplomatiques. Et deuxièmement, n'oublions jamais que la guerre, ça reste, quel que soit le camp dans lequel on est, ça reste sale. Donc, et qu'il y a aussi beaucoup de manipulation dans les guerres, et que les Américains sont les premiers pour savoir très bien manipuler aussi ce qu'ils ont envie de manipuler.
Alors, enfin,
voilà. Mais les Russes aussi. C'est un combat d'image. Hein. Aujourd'hui, les Russes sont en train de le perdre. Mais la question, c'est qui fabrique les images? Je pose la question. Je sais qu'en disant ça, il y a plein de gens qui vont risquer de dire que c'est pas bien. Mais en tout cas, il faut les poser ces questions.
Ouais.
Mais c'est courageux, non? Mais parce que effectivement, il y a cette engouement pour finalement l'émotion de dire voilà, on va voir ces images d'exactions qui sont terribles et qui sont le lot des guerres. Évidemment, c'est toujours les pauvres gens qui en souffrent les premiers et c'est des civils désarmés qui en souffrent les premiers, sans vouloir prendre le temps de la réflexion et dire mais effectivement, une guerre, c'est quoi? C'est une guerre de l'information aussi, c'est censure contre propagande, c'est de la mise en scène, c'est une façon aussi de diaboliser l'ennemi, de le déshumaniser. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis de chercheurs qui expliquent aussi qu'il y a un problème de violence fondamentale au sein de l'armée russe, à la fois sur le recrutement, la formation, mais aussi le non-traitement du stress post-traumatique. C'est-à-dire que dans cette guerre, vous avez des gamins de 19 ans du côté russe qui se font carboniser dans des chars, qui pensaient partir en manœuvre. Deux côtés, c'est insupportable, en fait. Donc j'espère que très vite, une voie diplomatique sera trouvée, mais ce qu'on voit avec cette mise en scène et ces appels...
Mise en scène, on n'en sait rien.
Dire que voilà, l'escalade est là et qu'il y a cette, cet appel finalement à l'émotion, on monte encore dans l'escalade.
Ce qu'il faut comprendre quand même, quand un char saute, enfin non pas sur une mine, mais quand il prend un missile anti-char, c'est 3 morts. Il n'y a pas autre chose à dire, c'est 3 morts à chaque fois. Et il faut imaginer le stress des gens, de ces jeunes qui sont dans ces chars. Alors parfois, il y a certainement des tirs très maladroits.
Ouais. J'entends tout ce que vous dites, mais il y a quand même un pays qui a
décidé chaque vie est une vie. Qu'à un moment donné, chacun est dans son combat, et dans sa vie, et dans sa peur de la mort. Et c'est vrai qu'on soit dans un char ou à l'extérieur, c'est très difficile. Quand c'est de la haute intensité, c'est très difficile.
Pascal, après, par rapport à ce que disait Mathéo, je pense que Poutine ne coupera pas le robinet du gaz, parce que s'il coupe le robinet du gaz, il ne peut plus faire la guerre, il n'a plus l'économie, puisque l'économie...
Il a la Chine.
Il pourrait le refermer un petit peu.
Il a la Chine, mais justement, ça veut dire qu'il se met complètement sous la tutelle chinoise.
Il ne peut pas tout basculer du jour au lendemain.
Et il n'existe plus, et là, c'est lui qui sera en grand danger. Peut-être qu'il l'est déjà, mais en tout cas, tant qu'il tient, eh bien, malheureusement, on va avoir des exactions comme il y en a dans toutes les guerres. Il y en a eu à la guerre d'Espagne, il y en a eu en 39-45, il y en a eu sur toutes les occupations, toutes les guerres. Et je ne vois pas aujourd'hui comment ce conflit peut s'arrêter si on reste sur tant que Poutine est là.
Oui. Ouais. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un petit instant. On va revenir sur les sondages de ce 4 jours avant l'élection présidentielle, de ce premier tour. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, avec Pascal Jalabert, Matteo Ghisalberti, Alexis Poulain et Alexandre Malafaille. Nous avons notre sondage quotidien, notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Emmanuel Macron est toujours en tête avec 27%, mais il perd du terrain, 0,5, moins 0,5, un petit peu chaque jour. Marine Le Pen a gagné 1 point, Jean-Luc Mélenchon 1 point, Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont à égalité à 9,5, et en cas de second tour, ce serait 53% pour Emmanuel Macron, 47% pour Marine Le Pen. Frédéric Dabi déclarait sur Sud Radio, rien n'est joué, il n'y a pas de règles, les choses peuvent bouger. 25 à 30% des Français peuvent changer d'avis. Un commentaire, Pascal, sur ces sondages, et avec moi, ce que j'entends autour de moi, des gens qui disaient « je vais voter un tel pour punir Macron » ou « je vais voter pour faire ci », en stratégie, en jouant en quelque sorte, ils n'ont plus envie de jouer maintenant.
Alors, je crois que Frédéric Dabi de l'IFOP a raison d'être très prudent, parce que le niveau d'indécision est plus élevé qu'il n'a jamais été, que notamment lors des trois présidentielles. Et dans ces indécis, si on regarde de près, il y a trois catégories. Il y a déjà ceux qui disent « est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ?» Participation, non-participation. Il y a ceux qui hésitent entre plusieurs candidats, qui ne savent pas. Donc ils vont éplucher les programmes, ils vont réfléchir stratégiquement, ils vont discuter entre potes vendredi soir et samedi, et décider au tout dernier moment. Et puis il y a ceux qui hésitent entre deux candidats. Là, c'est un peu plus resserré. Donc, avec toute cette indécision, eh bien, les lignes peuvent encore bouger. Qu'est-ce qui peut les faire bouger? Eh bien, voilà, ce sont ces discussions, ce sont ces réflexions de dernier moment. Vote utile, vote pas utile. certains candidats ont quand même des votes plus installés que d'autres, ouais. Hein, ce qu'on appelle ouais. la certitude de vote. Ouais. Et d'autres ont quand même une prime à leur campagne. Je pense à Fabien Roussel. Ouais. Il est donné entre 3 et 5. Il ne peut pas descendre plus bas. Mmh. Donc ça fait quand même moins de réserves de ce côté-là pour Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà. Ensuite, bon, ben, y a les candidats Nathalie Arthaud, Philippe Poutou qui feront leur score habituel, hein, 1,05. Ouais. Nicolas Dupont-Aignan qui se rabat aussi. Mmh. Jean Lassalle qui de mon point de vue, incarne une sorte de vote blanc. D'ailleurs, il a lui-même défendu le vote blanc. Donc voilà, ben on va voter Lassalle parce que la ruralité, parce qu'il nous a fait rire, parce que je l'ai vu à Toulouse, là, il était sur son bus, à crier Toulousain comme un supporter. Bon,
et Christine Bouillon nous disait que les jeunes étaient totalement fans, voulaient des selfies. Bah,
voilà, ça les amuse. Donc ça peut être une forme de vote dérision, de vote blanc. Donc voilà, on a toutes ces incertitudes. La question, c'est de savoir si des électeurs de droite vont dire « Bon, ben, c'est perdu pour notre candidate, ben, on va chez Emmanuel Macron pour éviter le Pen et Mélenchon. » Si des électeurs d'extrême droite qui étaient partis sur Zemmour vont dire ben, « C'est peut-être plus efficace le Pen. » Si des électeurs de gauche vont dire «
Il va y avoir des calculs, mais il n'y a pas de vote d'adhésion. »
Non, il n'y a pas de vote d'adhésion. Il n'y a pas de vote d'adhésion sur cette élection, d'où cette indécision qui porte autant sur la participation que sur le choix des candidats.
Vous parliez de Fabien Roussel, on a appris ce matin que Jacques Dutronc soutenait Fabien Roussel.
Le roussellement.
Jean-Luc Mélenchon a eu beaucoup d'artistes. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir qu'à gauche, les artistes soutiennent assez facilement.
C'est encore moins que les autres campagnes. Hein,
c'est moins que les autres campagnes.
Et c'est la gauche plus radicale aussi.
Il y a eu l'expérience...
Faudel et autres.
Comment il s'appelait, Dogginé. Tragique qui avait soutenu.
Mais là ils étaient Sarkozy, nombreux à s'engager pour Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Et on voit que pour Fabien Roussel, il y a aussi un élan
et une adhésion autour
de sa candidature.
Il faut voir aussi les candidats qui ont fait campagne réellement. Ouais. Ils ont su créer aussi cette adhésion. Mmh. Que ce soit Jean-Luc Mélenchon et l'Avenir en commun, ça fait des mois qu'ils sont en campagne. Éric Zemmour qui a fait une campagne express mais extrêmement médiatisée. Fabien Roussel aussi qui a su sortir du lot en se repositionnant finalement sur les bases fondamentales du Parti communiste. Et pour les autres...
Nathalie Arthaud, elle est aussi, évidemment, du fait des temps de parole plus invités, et on l'entend un peu plus.
C'est ce que je disais, on devrait pouvoir entendre les candidats anticapitalistes et les partis anticapitalistes davantage dans les médias le reste du temps, et pas seulement...
Vous trouvez que le discours de Nathalie Arthaud est audible aujourd'hui ?
Oui, elle est tout à fait audible. C'est pas nouveau. Et après, elle explique d'ailleurs dans ses interviews que certes, elle a la chance là de pouvoir parler. Ou même quand Poutou est interviewé, il dit « Vous savez très bien que je vais pas gagner, mais je suis là pour dire aux gens le reste du temps, on travaille, on essaye d'aider les travailleurs, on essaye de faire des choses aussi pour dans l'intérêt des travailleurs. Donc c'est le seul moment finalement où ils peuvent s'acheter une campagne publicitaire plutôt qu'une campagne électorale, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'iront pas au second tour. Mais derrière ça, le reste du temps, ils sont invisibilisés globalement dans les médias.
On rappelle qu'ils touchent chacun 800 000 euros hein, pour cette campagne.
Ouais.
800 000 euros, une enveloppe de 800 000 euros qui
permet après de vivre.
Qui vient aussi compenser une bonne partie de ce qu'ils ont dû investir. Parce qu'il faut aller chercher les 500 signatures et que ça, c'est pas gratuit. Hein.
Ouais, absolument.
C'est pas gratuit. Nicolas Dupont-Aignan avait perdu beaucoup d'argent lors de la précédente campagne. Il avait fait 4,70%. Donc il n'avait pas eu accès au remboursement et ça avait coûté très cher.
Oui, Alexandre, sur ces sondages qu'on évoquait, sur la stratégie des électeurs,
ce qui est très vrai, c'est qu'effectivement, il y a un niveau d'indécision pour une présidentielle qui est peut-être historique, avec des gens qui n'ont peut-être pas envie d'aller voter ou qui vont voter blanc, parce que ce que je crois fondamentalement, en dehors de ceux qui sont convaincus qu'il faut mettre un bulletin parce qu'un candidat porte le projet, je crois que la plupart... il peut y avoir le vote qui est le vote pour Fabien Roussel ou pour Nathalie Arthaud. On se dit, bon, de façon là, ils vont pas gagner, mais on va passer notre conviction et soutenir ces gens qui disent des choses auxquelles on croit et dont on a envie qu'elles arrivent. Mais je crois que fondamentalement, sur les candidats qui sont en capacité à faire, il y a un doute qui s'est installé depuis maintenant de nombreuses années, qui est, ils peuvent, mais ils vont pas le faire. Voilà, ils disent qu'ils vont le faire, mais ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne proposent pas de méthode, ils ressassent toujours les vieilles recettes. Enfin, typiquement, certains mettent en avant sur la table, bon ok, on va faire la réforme des retraites, mais cette réforme, moi, je veux qu'on soit là, 65 ans. Mmh. D'accord. Et moi, je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut dire aux Français, écoutez, on va mettre sur la table la réforme, enfin la bonne réforme des retraites, parce que ça fait trop longtemps qu'on les a faites de manière partielle et on repousse en permanence les problématiques. Je sais que c'est une réforme compliquée parce qu'elle touche à beaucoup de paramètres, beaucoup de choses, mais cette réforme, on va la faire ensemble. Voilà, on va réunir les partenaires sociaux, les parties prenantes concernées, et puis on va essayer de discuter, on va bien sûr essayer d'être ambitieux, on va essayer de discuter, trouver le bon compromis, le bon équilibre, et faire en sorte que cette réforme, elle soit acceptée, et pas que ce soit une décision prédéterminée, comme ça a été fait pour le cas de l'assurance chômage, où l'exécutif avait dit aux partenaires sociaux, discuter, mais de toute façon, il faut arriver à ça. Pardon, c'est pas comme ça qu'on fait de la démocratie, et c'est surtout pas comme ça qu'on fait du consentement, de l'adhésion. Et je pense qu'ils sont tous à côté de la plaque, parce qu'ils ont oublié fondamentalement que pour convaincre aujourd'hui, il faut parler méthode. Mmh. Avec qui et comment on va faire et avec quelle façon de faire pour entraîner les gens et puis arriver à fabriquer des consensus et mobiliser les gens. Tant que les gens n'y croiront pas, ils voteront n'importe comment, enfin pardon, ils ne votent pas n'importe comment, ils voteront pour des gens qui n'arriveront à rien, ou ils voteront par idéologie, mais on aura les seconds tours qu'on mérite. Et ce qui est certain, c'est que si le président sortant est réélu, quel que soit le score qu'il fera, il ne sera sans doute pas aussi haut que ce qu'il espérait, ce ne sera pas une victoire.
Ça va être très compliqué. Voilà.
Et il n'aura pas de légitimité réelle pour gouverner, ça va être extrêmement compliqué.
Matteo Ghisalberti.
Déjà, j'invite tout le monde, ceux qui ne l'ont pas encore fait, à établir une procuration. Je rappelle que c'est valable aussi pour les citoyens français qui vivent à l'étranger pour voter en France. C'est très important parce que, comme j'ai eu aussi à le dire, à le répéter dans d'autres occasions ici sur Sud Radio, il ne faut pas se plaindre après si les choses vont mal quand on n'exerce pas son droit de vote, au moins au présidentiel. Désolé, enfin moi, encore une fois, je pense que les Gilets jaunes avaient une légitimité au début du mouvement, etc. Et peut-être aussi à la fin, mais ils avaient été pas mal infiltrés par d'autres tendances qui étaient problématiques, honnêtement, pour la démocratie. Par contre, je ne comprends pas tous ceux qu'entre eux, entre parmi les Gilets jaunes, disent bah je vais pas voter. C'est plus facile effectivement de descendre dans la rue, mais après tu obtiens de toute façon rien. Je veux dire à propos des sondages une dernière chose. Franchement, j'ai un peu l'impression que par exemple Fabien Roussel pourrait faire mieux que de ce qu'on s'attend, parce que je pense qu'il a pu. Je partage plus ou moins tout ce qu'il a dit les autres invités sur les plateaux, mais je pense qu'il a réussi à attirer vers lui un peu plus de gens qui effectivement n'étaient pas convaincus jusqu'au fond de Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aussi les gens de gauche qui ne sont pas, qui n'aiment pas la proximité avec le. L'islamisme, parce qu'il y a aussi cet
aspect-là.
Porosité. Donc, à mon avis, il obtiendra un score plus important.
Voilà. Ouais. Je ne sais pas, on verra effectivement.
On va laisser les gens voter.
On va laisser les gens voter. Il y a Anne Hidalgo aussi qui...
Qui ça dont
on est en déficit de temps de parole sur elle, de temps d'antenne. Ah oui. Mais Anne Hidalgo... Mais Anne Hidalgo qui mène sa campagne courageusement.
Oui, elle est très courageuse.
Très courageuse, je trouve.
Même le dire, sur la fin, elle est quand même assez courageuse. Ouais. Après tout ce qu'elle a reçu, avec le manque de préparation du Parti socialiste qui était le cas. Parce qu'autant les élus socialistes dans les territoires ont remarquablement préparé les élections municipales, régionales, départementales, autant le parti au niveau national n'a pas préparé cette élection. Ils n'ont préparé ni de candidats, ni de programme. Quand on a été un grand parti qui a gouverné, l'exigence est plus forte, donc il faut travailler. Et la leçon que s'il doit retenir le Parti socialiste, c'est qu'il doit se mettre au boulot.
Oui, ils auraient peut-être pu y penser avant, non ? Il y avait une élection. Anne Hidalgo, ça vous inspire quoi, Alexandre Malafaï ?
Ça m'inspire que c'était certainement pas la bonne candidature pour le Parti socialiste. Après, elle a été prise aussi au piège de ses propres déclarations. Quand on dit un an avant, j'irai jamais parce que j'ai fait un choix,
bien
c'est
sûr,
ma ville. Et voilà, ça a quand même un peu pollué son début de campagne. Après, c'est vrai que la ligne n'est pas très claire. On pouvait quand même penser que son positionnement écologique allait être quelque chose qui allait lui profiter parce que c'était finalement ce qu'elle revendiquait sur Paris. Après, on peut critiquer son bilan à Paris, mais c'est encore une autre histoire. Voilà, finalement, la mayonnaise a pas pris. Peut-être c'est une problématique de style, peut-être c'est une problématique de choc entre Paris et le reste de la France. Ce qui est certain, c'est que ces grands partis qui ont structuré la vie politique française pendant tous ces partis-là, ils sont quasiment... Enfin, si les Républicains n'arrivent pas à faire un bon score au premier tour, ce qui n'est pas très bien parti, le parti va voler au moins en 3 ou 4 morceaux. Ça va être très difficile après de passer la barre des 3-4%. Là, le Parti Socialiste, se reconstruire après ça, ce sera très compliqué. Les Insoumis vont avoir un problème aussi, parce que si Mélenchon ne passe pas la barre du deuxième tour et qu'il n'est pas président, lui, on sait qu'il est plutôt après sur une fin de carrière. Il va falloir prendre la suite, c'est pas évident.
Oui,
et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur Fabien Roussel. Il a une opportunité historique d'être tout d'un coup celui qui est plus sympathique, moins hystérique que peut-être parfois Jean-Luc Mélenchon, ou excessif, et être porté par
Jadot.
Le fait que... Et puis Jadot, on verra. Jadot, pour l'instant, c'est très étonnant, pourtant, là aussi. Il n'a pas, et pourtant, il avait un potentiel de sympathie, mais quelque chose n'est pas encore passé. Il n'a pas pris sur sa personne une impulsion qui oh, franchement, moi, je me suis un peu trompé. Je pensais que Jadot ferait mieux.
Mais il n'a pas fait campagne. Il faut dire aussi ce qui est. Ouais. Vous avez des candidats qui ont fait campagne et des candidats qui ont refusé de faire campagne. Qui ont,
il a été victime d'une pollution. Alors, c'est parce qu'il est écologiste.
Avec Sandrine,
bien sûr, avec
Rousseau.
Sandrine Rousseau à la primaire. C'est Jadot qui a la primaire et on ne parle que de Sandrine Rousseau et elle a multiplié les coups d'éclat. Alors, il a fini par la virer de sa campagne, mais c'est tout de suite qu'il a fallu poser la question de conscience.
Un gros caillou dans la chaussure.
C'est une écharde. Il a presque renié ce qui fait sa force, parce que Yannick Jadot, c'est quand même quelqu'un qui a 30 ans derrière lui de militantisme écologiste, qui a organisé des campagnes pour Greenpeace, qui vote au Parlement européen des lois plutôt responsables, qui a un positionnement plutôt social-démocrate quand il est avec ses confrères allemands ou autrichiens. Il faut quand même rappeler qu'en Allemagne, aujourd'hui, les écologistes sont membres du gouvernement. Ils ont eu des chefs de la diplomatie comme Joska Fischer, qui était de bon
avec
c'est pas Sandrine Rousseau.
C'est pas du tout le même positionnement qu'ici.
Non, c'est pas le même positionnement.
Et c'est pas le même parti.
Et puis, ils n'ont pas une Sandrine Rousseau pour aller dire qu'il faut créer un délit parce que monsieur n'a pas rempli la vaisselle.
C'est ce qu'on retient. Plus que les propos.
D'où le terme de pollution que j'ai utilisé.
Ouais. J'ai quand même vu un sondage ce matin, je crois que c'était un sondage IFOP, qui laissait penser que 50% des femmes étaient assez favorables à la création de ce délit de non-assistance ménagère. C'est quelque chose d'assez étonnant.
C'est bien, on danse sur le cratère d'un volcan qui va bientôt exploser. Mmh. C'est génial, on s'amuse des petites phrases et d'une campagne qui n'a pas existé. Mais la réalité, c'est que dans cette campagne, on n'a pas parlé des vrais sujets. L'inflation incontrôlée, la dette incontrôlable, les politiques qui vont s'en suivre, peu importe qui va gagner cette élection, mais qu'est-ce qu'on fait de notre pays après? Avec les sanctions qui ne vont pas aider du tout, le FMI qui ne redoute pas encore une récession, mais le scénario est sur la table. Économiquement, tout est dans le rouge. Socialement, tout est dans le rouge. On parlait de la violence, la montée de la violence. Rien n'a été fait pour apaiser non plus ce pays. Donc on peut continuer de s'amuser des petites phrases, des candidats qui ont fait les beaux devant les caméras. La réalité, c'est que je ne vois personne vraiment à la hauteur de dire mais qu'est-ce qu'on va faire après cette élection.
Alors, on marque une pause, vous répondrez, Alexis.
Tout simplement, Alexis, il y aura McKinsey qui s'en occupera.
Oui.
Ah.
Ou pas. Allez. Jean-Luc Mélenchon a dit non, stop, McKinsey, je vire tout le monde.
Petite pause, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, l'actualité en direct. Avec vous, on apprend à l'instant que le parquet national financier a ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale contre McKinsey. Donc, c'est une enquête qui a été ouverte le 31 mars. C'est annoncé aujourd'hui. Alexis Poulain,
c'est une bonne nouvelle parce que on attendait cette annonce du parquet national financier
à 3 jours de l'élection
qui
présidentielle.
Qui n'était pas allé assez vite. Sur ce scandale McKinsey levé par le Sénat. Hein. Il n'y a rien de complotiste comme aimeraient le faire croire les membres de La République En Marche. Donc, on va peut-être enfin avoir une enquête et une explication sur ces millions d'argent public, ces milliards cumulés, dépensés. Alors, McKinsey n'est qu'un des cabinets. Capgemini, par exemple, qui a facturé 40 millions pour un logiciel d'intelligence artificielle pour voir si les piscines étaient déclarées, qui ne fonctionne pas. Ça ne coûte pas 40 millions, un logiciel de ce type-là, surtout en travaillant avec Google Maps. Et donc, y a vraiment un audit global à faire de ces cabinets au cœur de l'État, parce que c'est un système de gouvernement qu'a mis en place Emmanuel Macron.
Là, l'enquête, elle porte sur McKinsey, sur le fait qu'il n'est pas déclaré de bénéfices.
C'est déjà
pas...
un bon début. Mais le reste, moi, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que... peu importe qui sort des urnes, mais qui est cette audite générale, en fait, en disant on ne peut pas continuer comme ça. Parce que l'excuse de dire que la France fait moins que les voisins appel au cabinet de conseil, c'est bidon. C'est simplement qu'on prend le temps de se rattraper et parce qu'on a beaucoup de fonctionnaires. L'excuse de dire qu'on a besoin de ces compétences parce qu'elles sont uniquement dans le privé, c'est faux, notamment en matière de cybersécurité. Comment voulez-vous que l'État soit souverain et indépendant s'il fait appel à des boîtes privées américaines pour gérer sa sécurité, pour gérer ses infrastructures? C'est une vente à la découpe du pays et de sa souveraineté. C'est insupportable. Donc, il est temps que ça cesse. Donc,
Pascal Jaberl, l'annonce de l'ouverture de cette enquête aujourd'hui, on est mercredi, on va voter dimanche. Il y a un calendrier.
Il y a un calendrier. Il faudra voir la suite parce que forcément, quand il y a enquête, il y a des auditions, des convocations, peut-être même des mises en examen. Hein, ça peut aller vite aussi. Donc, on va voir. Mais ça va surtout permettre d'explorer le fond des dossiers. Mmh. Parce qu'il faut rappeler quand même que dans ces fameux rapports McKinsey, il y a des colloques qui ont été facturés à des sommes proches du demi-million d'euros qui n'ont débouché sur rien. Ouais. Il y a des rapports, notamment sur le système éducatif, qui sont des copier-coller. Donc ça fait quand même cher payer pour ça. Il faut savoir qui s'est mis l'argent dans les poches, qui a contrôlé ce travail. Donc l'enquête va permettre de mettre des noms, de mettre des faits sur tout ça. Donc du coup, il est normal qu'elle soit ouverte. Après le calendrier, le rapport du Sénat, logiquement, il a été transmis au parquet, le parquet fait son job. On va voir maintenant la célérité ou non des magistrats pour convoquer tout le monde et demander des explications.
Ce ne sera pas fait dans les trois jours.
Alexandre Malafaï.
De toute façon, il fallait bien que ça sorte. De toute façon, ça devenait très compliqué, y compris pour la justice, qui a déjà mené des enquêtes dans des périodes préélectorales et on le leur a reproché. Finalement, comme ça, tout le monde en a pour son matricule. Bon, mais il y a plusieurs sujets. Il y a le premier sujet, effectivement, de l'optimisation fiscale. C'est légal, mais on peut quand même se demander comment les représentants de l'État, les ministres, ont fait en sorte qu'on sous-traite à des prestataires américains, et ils ne sont pas les seuls, McKinsey, pardon, mais Microsoft, je crois, ne paye pas beaucoup d'impôts en France, et pourtant Dieu sait qu'ils fournissent Google.
Oui, mais enfin, ça, vous avez entendu Bruno Le Maire dire que le candidat Macron avait été le champion de la lutte contre
on fait des choix, par exemple, on passe des marchés très importants, prenez le ministère de la Défense, passe un marché très important avec Microsoft, très bien, ils ont des logiciels qui vont bien, mais dans ces cas-là, on devrait imposer à Microsoft d'avoir un siège, non pas un siège commercial, mais un siège fiscal en France. Fiscal. Après, moi, j'ai pas d'état. Si leur logiciel marche le mieux, après tout, il faut être pragmatique. On n'a pas de Google, on n'a pas de développeur de logiciel. Pas de problème. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est le pourquoi on prend toujours des cabinets américains. Parce qu'on a quand même en France.
Quand on voit le camembert des cabinets de conseil, on voit que McKinsey est assez loin. C'est leur nom qui est sorti. Mais il y a des cabinets français qui arrivent en tête.
Vous avez Capgemini, vous avez beaucoup de cabinets français.
Mais sur toute une série de sujets sensibles, les Américains sont bien présents. Et troisième question, c'est est-ce qu'il y a une compétence de l'État qui est totalement insuffisante, qui s'est déconstruite avec le temps et qui justifie ça? Si c'est ça aussi, ça méritera question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'exécutif et dans cette séquence de campagne électorale, toutes les réponses intelligentes seront inaudibles. Vous aurez beau vous défendre d'une manière ou d'une autre, dans un débat, dans un second tour, etc. Vous pourrez dire ce que vous voulez, les gens n'entendront rien de vos explications.
Beaucoup d'auditeurs disent qu'ils n'ont pas reçu leur profession de foi, c'est une parenthèse, mais moi non plus. Et ça a été confié, je l'ai dit hier, la gestion visiblement à un cabinet de conseil français. Mathéo.
Oui. Zut alors. Non, effectivement, je pense que finalement, cette information qui vient de tomber va faire regretter le fait de ne pas avoir voulu participer à des débats. Première chose. Oui. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que très bien, le Bruno Le Maire nous dit que le candidat Macron a été le plus vertueux, comme vous disiez, Valérie, tout à l'heure, pour la gestion. Enfin, l'utilisation l'utilisation de ces cabinets. Désolé, mais si c'est la voix du maître qui parle et sans avoir un vrai contradictoire, un vrai débat, répondre à des questions qui ne sont pas envoyées en avance au candidat ou président Macron, enfin, je suis désolé, on peut pas croire tout simplement à la bonne parole prêchée par le ministre des Finances, qui d'ailleurs aurait dû être un petit peu plus attentif à ce qui se passait dans les comptes publics, parce que je rappelle que de toute façon, le fait de faire appel à des cabinets extérieurs, déjà, c'est pas très sécurisant, très bêtement, je pense. Deuxième chose, on a des fonctionnaires qui sont formés ou qui ne sont pas assez formés pour ça, et donc qu'est-ce qu'on dit? On passe on va à l'extérieur, et donc on ubérise aussi la fonction publique.
Ce que disait je ne me souviens plus qui disait ça, mais en tout cas, ceux qui font même les l'ENA ou des écoles comme ça préfèrent partir comme consultants parce qu'ils sont mieux payés. On préfère ne pas intégrer la fonction publique et être après...
Et aussi, il faut parler des SAS, en fait, qui font que vous passez d'un cabinet de conseil à un cabinet ministériel et vice-versa. Le pantouflage, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que toute la connaissance que vous avez d'un milieu dans la santé, en tant que consultant, ensuite, vous retournez dans le public, vous faites des politiques en faisant appel à vos anciens collègues, et puis ensuite, vous retournez dans le privé, et là, vous faites votre carnet d'adresses dans le public.
C'est pas uniquement la question... la question privé-public, mais c'est surtout la question de la compétence et de la qualité du travail. Des entreprises privées qui ont des marchés délégués, hein, qui font du super boulot, qui ont des centres de recherche. Je pense à des secteurs comme l'eau, où la France est une championne, des secteurs comme les déchets, où on a des entreprises privées qui font du super boulot, que le public n'aurait jamais pu mettre en place parce qu'il n'avait pas les capacités de recherche, d'innovation. Mais là, la qualité est gravement en cause. Et l'utilité est également en cause. Quand on fait appel du privé, parce qu'en effet, ils ont les compétences... Ils savent mieux faire et ils ont mis au point des innovations que le public n'a pas su faire, ok. Mais là, il y a franchement un problème de qualité qui interroge sur les raisons qui ont fait qu'on leur ait fait appel.
Oui. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Inutile de dire que je pense que cette information va être largement commentée. Effectivement, Yannick Jadot propose une loi pour interdire aux fonctionnaires de revenir dans le public après le privé. Ça faisait partie de ses propositions. Et puis, à lire cette tribune dans Marianne, peut-être que le fait que le parquet national financier se soit exprimé, c'est suite à cette tribune collective. Nous, magistrats, trouvons anormal que le parquet ne déclenche pas d'enquête. Donc c'était effectivement un poison lent qui est en train de se répandre de façon assez rapide. Voilà. Merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant. Merci à vous. Oh non, on se retrouve demain, pardon. Bonne journée.